RFI Matin.
9h42 à Paris, à suivre Afrique Économie. On verra comment les pays africains développent leur agro-industrie pour produire localement en grande quantité sans oublier la qualité. On sera en Côte d'Ivoire pour le reportage Afrique avec les rares locuteurs de la langue Sokia, dialecte parlé dans le centre du pays par quelques milliers de personnes seulement et qui a failli disparaître. On verra comment elle a pu être sauvée de l'oubli. Et puis comme tous les jours, on se quittera en musique avec le choix musical de la rédaction. Aujourd'hui, les mélanges audacieux de Joachim Horsley qui aime marier la musique classique au son afro-caribéen. Mais d'abord, le journal des sports. Avec Antoine Grenier, le football des jeunes. Antoine, et la suite de la CAN U17 au Maroc.
Avec trois rencontres au programme, notamment celle du Burkina Faso, les U17 burkinabés dont c'est la huitième participation pour jusqu'ici cinq podiums et une victoire finale en 2011. Ils affrontent le Cameroun, troisième de la dernière édition en Algérie. Les burkinabés visent le titre cette année et ça passe par un bon match d'entrée face aux Camerounais, prévient leur sélectionneur Oscar Barreau.
Avec huit participations et un trophée, je pense que nous avons quand même fait le chemin et il est temps pour rentrer avec le deuxième trophée. Nous sommes très contents d'être favoris. Ça veut dire que ce n'est pas tombé de façon fortuite. C'est un travail qui a été fait par nos prédécesseurs et qui ont bien fait le travail. On a quitté ici la compétition passée en troisième position. On ne peut mieux faire que de repartir avec le titre. Donc, c'est bien dit, nous assumons pleinement notre statut de favori cette fois-ci.
Burkina Faso Cameroun, 17h, temps universel. Dernier match de la journée à 20h TU entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Sur une journée qui s'ouvrira sur un Tanzanie-Zambie à partir de 14h, temps universel dans le groupe A. Un groupe dans lequel le Maroc a réussi des débuts parfaits. Victoire 5-0 face à l'Ouganda dans le match d'ouverture.
En basket, Yves Missi décisif avec la Nouvelle-Orléans lors de la soirée NBA.
Le Camerounais, auteur de 11 passes et de 8 points lors de la victoire des Pelicans 98-94 sur Charlotte. Autre performance africaine sur les parquets américains, celle de Jonathan Kuminga. 6 petites minutes pour 4 points. Façon pour lui de prendra part à la démonstration des Golden State Warriors, vainqueurs des Spurs de San Antonio, 148-106. Charles Bassey, le Nigérian des Spurs, n'aura pu que délivrer une petite passe décisive.
On termine ce journal avec de la boxe française ou de la savate, hein, c'est les poings et les pieds. Antoine a maintenant un peu plus de 3 semaines des championnats d'Afrique.
Voilà qu'on a affaire à une spécialiste. En tout cas, le Cameroun, un des pays majeurs de la discipline sur le continent, prépare activement la compétition pour rivaliser avec notamment le Sénégal, l'Égypte ou le Maroc, Joël Wadem.
Depuis 2 semaines, la Fédération camerounaise de boxe savate organise des regroupements pour la préparation des championnats d'Afrique. Alex Ivan Kene, champion d'Afrique en 2023 et 2024 dans la catégorie de 75 kg, vise le triplé.
Mes ambitions d'abord, c'est de conserver ma place en tant que champion d'Afrique dans ma catégorie. Nous sommes en train de bosser sincèrement dur pour que ça puisse être. Nos entraîneurs nous font travailler sur deux plans, d'un psychotechnique, de deux technico-tactiques, parce que le championnat d'Afrique aura lieu au Sénégal, sera en savate à saut, donc ce qui demande beaucoup de technique.
Les regroupements se sont déroulés dans 4 villes camerounaises, dont Yaoundé et Bafoussam. À son terme, 15 athlètes sur les 150 en compétition seront retenus pour les championnats d'Afrique. L'entraîneur national Thierry Fongan revient sur cette préparation.
On a commencé par un tournoi championnat national aller qui c'est non seulement d'ouverture de saison, mais également de sélection technique des athlètes. La sélection se poursuit ce week-end pour voir jauger la résistance des athlètes et permettre également à ceux qui sont aptes de pouvoir faire partie de la sélection nationale.
Les championnats d'Afrique de boxe savate sont qualificatifs pour les championnats du monde qui se dérouleront en juillet en Bulgarie. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et les championnats d'Afrique de boxe savate se tiendront, eux, à Dakar du 23 au 27 avril.
Et c'était le Journal des Sports. Merci Antoine Grenier. Aujourd'hui, près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans sont attribués à la sous-nutrition. Pour lutter contre cela, il faudrait 13 milliards de dollars par an, selon la Banque mondiale. Dans ce contexte de multiplication des conflits, de perturbation des chaînes de production et de distribution, produire plus localement est devenu une priorité pour beaucoup d'États. Ces questions ont été largement débattues en fin de semaine dernière lors du sommet Nutrition for Growth à Paris. Afrique Économie, Charlotte Cosset.
Face aux problèmes de sécurité alimentaire, les autorités éthiopiennes
éthiopiennes ont engagé de grands chantiers pour faire du Made in Ethiopia et notamment transformer localement. Chibrou Kelbessa, assistant technique au ministère de l'Industrie éthiopien, pointe les défis.
Cette initiative vise à substituer les importations par de la production locale. Mais comme vous le savez, de nombreux acteurs rencontrent des difficultés financières et ils ne bénéficient pas du soutien d'autres partenaires privés. C'est là le principal défi.
Dans certains pays, de grandes entreprises de l'agro-industrie sont déjà présentes. Elles façonnent nos systèmes alimentaires, met en exergue un ministre ivoirien lors du sommet sur la nutrition à Paris. Avec, dans certains cas, des produits très transformés, très sucrés ou très gras. Pour Augustin Grand-Georges du Forum de Paris sur la paix, les entreprises peuvent avoir intérêt à évoluer et y être incitées.
Si jamais elles évoluent dans un environnement de marché qui le permet, qui récompense ces bonnes pratiques et qui aussi punit les mauvaises, elles ont un intérêt économique a priori d'être mieux disant sur le marché. Elles ont aussi un intérêt du point de vue de leur responsabilité sociale et ça par deux aspects, à la fois pour l'image de l'entreprise mais aussi pour des raisons financières parce que les investisseurs de plus en plus commencent à s'intéresser à ces questions. Et on a discuté de l'intégration des critères nutritionnels pour les investisseurs. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les investisseurs regardent la qualité nutritionnelle des portefeuilles des entreprises dans lesquelles elles investissent pour que ce soit un petit peu un gouvernail pour les investisseurs.
Les États ont aussi un rôle à jouer, mais ils peinent encore à prioriser le secteur de l'agroalimentaire. Nutrition internationale mise, elle, sur le coût de l'inaction et a développé un outil pour le quantifier. Margot Stachny, vice-présidente des relations extérieures de l'ONG.
On voulait vraiment être capable d'aider les gouvernements à voir le coût de ne pas investir. L'outil, il est gratuit. Il est sur notre site. On donne aussi l'expertise pour aller avec eux faire ces recherches-là pour leur aider, voir s'ils ont un montant d'argent limité ou ce qui pourrait avoir le plus grand impact pour leur investissement.
Lever des fonds privés et des fonds propres de plus en plus nécessaires dans le contexte de restriction des aides budgétaires. Le Programme alimentaire mondial vient d'annoncer une baisse de 40% de ses financements pour 2025. Afrique Économie avec Charlotte Cosset.
RFI Matin.
On part à présent en Côte d'Ivoire. Écoutez, une langue très rare, le Sokia, 20 000 locuteurs seulement, issus d'une communauté de Vavois dans le centre du pays. Et ce dialecte aurait pu tomber dans l'oubli sans l'engagement des locaux, mais aussi de missionnaires chrétiens qui ont contribué à faire passer cette langue de l'oral à l'écrit. Petite leçon de Sokia avec Benoît Almeras.
Ça veut dire quoi?
Est-ce que vous allez bien? Venez, nous allons manger. Parce que manger là, c'est le plus important d'abord.
Cette première leçon de langue Sokia, c'est Stéphane qui la donne. Ce planteur de cacao vit à Dediafla, l'un des 13 villages de sa communauté. Les Sokia y sont aujourd'hui minoritaires car les jeunes partent, selon lui.
Ils vont se chercher pour aller s'installer en ville. Il faut dire qu'au niveau du village aussi, il n'y a plus de forêt pour travailler.
L'exode rural fait craindre la disparition de la langue jugée trop difficile au profit du gourou et du français. Pourtant, le Sokia perdure en partie grâce à un petit livre bleu, une traduction du Nouveau Testament. À l'origine, Philip Saunders, un missionnaire écossais arrivé en pays Sokia dans les années 1970.
Il a commencé à interroger les anciens. Est-ce que vous avez l'assurance que dans 10 ans, cette langue va continuer à être parlée?
Le pasteur Ambroise Kalou a fait partie de la douzaine de traducteurs qui ont assisté Philip Saunders.
Il a proposé que lui, il allait traduire, il allait écrire, de sorte que ça soit maintenu sur un support écrit. La suite, c'est qu'on s'est dit, si c'est traduit en Sokia, eh bien, nous serons vraiment heureux d'avoir, nous aussi, notre Nouveau Testament.
S'ensuit un travail de fourmi, 30 ans, pour transcrire plus de 2000 mots de l'oral à l'écrit à l'aide d'un alphabet spécial.
Le B, c'est dit avec BH. On dit Béli. Quand on dit Béli, on dit frère.
La langue s'est même enrichie, selon Didier Bita, l'un des traducteurs.
Berger. Comme a dit berger dans notre langue. Chez nous, c'est celui qui poursuit les brebis. Brabré, bivouillon. Est-ce qu'il faut dire que l'Éternel est celui qui poursuit les moutons? Non. Le bon berger, c'est Brabré Iriozoyon, celui qui veille sur les brebis. C'est vrai que la langue française ou bien anglaise, elle est belle, mais c'est encore mieux souvent de rester soi-même. Et nous le souhaitons aussi pour ceux qui vont venir après nous.
Et aujourd'hui, des habitants Sokia de Dediafla ont l'espoir de voir leur langue survivre à l'image d'Angéline.
Si vous suivez la Bible Sokia, vous avez parlé Sokia un jour, le Sokia existe.
Penoua Neras, Vavois, RFI.
Et vous retrouvez ce reportage sur notre site RFI.fr et notre application Pure Radio. 9h52 à Paris, 7h52 en temps universel. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité internationale. Puis appel sur l'actualité avec Juan Gomez. En attendant, on se quitte avec notre choix musical. De Bach, Jean-Sébastien Bach et beaucoup de rythmes latinos. Ce mélange d'univers très éloigné. Et la marque de fabrique de Joachim Horsley, c'est votre choix musical de ce matin. Carmen Lunzmann, bonjour.
Bonjour Marion.
Le pianiste, arrangeur et compositeur américain revisite depuis 10 ans les incontournables de la musique classique à travers une palette de styles afro-caribéen et sud-américain. Et là, c'est au tour du célèbre compositeur baroque allemand avec Afrobach.
Et c'est en 7 titres étonnants et détonnants que Joachim Horsley réinvente quelques-uns des plus grands classiques du cantor de Leipzig né au XVIIe siècle. Et ça les coiffe.
Ce titre, c'est Bach Bougalou. Il fusionne une suite de Bach avec une danse afro-cubaine. Quel est le parcours, Carmen, de ce passionné des mélanges des genres ?
Alors, Joachim Horsley vient d'un milieu totalement classique. Ce fils d'une pianiste grandit dans la banlieue de Boston aux États-Unis. Il commence à jouer le piano à 5 ans, élargit ses horizons en jazz, pop et rock pendant son adolescence et rajoute quelques notions en clarinette, basse, percussion et guitare à son arc pour devenir finalement compositeur de musique de film à Hollywood, avec notamment un Batman, Marion. Puis une crise artistique l'amène à Cuba en 2015 et à son retour, il sort ceci.
Carmen, si je ne m'abuse, ça ressemble pas mal à du Beethoven.
Ben c'est du Beethoven, mais in Havana, le clip devenu viral avec plus de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux où Joachim Horsley cubanise la 7e symphonie de Beethoven en utilisant le piano comme seul instrument de percussion de manière assez ingénieuse.
Bien celui-là, hein. Ce Beethoven in Havana marque aussi le début d'une trilogie du pianiste hors pair Via Havana.
Son premier album solo du même nom sort d'ailleurs en 2019, suivi de Caribbean Nocturne, davantage collaboratif, et maintenant Afrobach, où l'Américain s'entoure d'un bassiste cubain, d'une percussionniste vénézuélienne, de musiciens colombiens, haïtiens et africains, notamment le Sénégalais Magat Fall, lauréat de 3 Grammy Awards, compositeur du film Black Panther, et percussionniste d'Angélique Kidjo en passant, qui s'empare ici avec fougue et imagination d'une fugue de Bach.
Carmen, qu'est-ce qui distingue finalement l'art de Joachim Horsley d'un simple remix?
Alors d'abord, Marion, c'est sa manière de transcender les frontières musicales tout en préservant l'essence des œuvres. Et puis, il y a autre chose.
Je ne suis pas la première personne à fusionner musique classique et salsa ou musique latine, mais en tant que compositeur de musique de film, j'apporte quelque chose de nouveau. Je crée mon propre récit. Et si ces compositeurs, Bach, Beethoven, Mozart, n'avaient pas vécu à Vienne, mais à La Havane, à quoi ressemblerait leur musique ?
Réponse dans l'album Afrobac de Joachim Horsley. C'était votre choix musical ce matin. Merci Carmen Lunzmann. Et c'est ainsi que se termine RFI Matin. 3 heures d'infos réalisées par Jean-Pierre Pellon. Merci à lui. Dans quelques minutes sur RFI, un nouveau journal suivi d'appels sur l'actualité. Bonjour Juan Gomez.
Bonjour Marion Cazeneuve. Bonjour à toutes et à tous.
Et on va parler aujourd'hui des tensions politiques en Centrafrique face à une possible candidature de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle.
Effectivement, en vue de la présidentielle qui doit se tenir théoriquement en décembre. Les sympathisants du président Touadéra se sont rassemblés hier au stade de Bangui pour réclamer une nouvelle fois la candidature du chef de l'État. En réponse, l'opposition a prévu de marcher ce vendredi dans la capitale contre un troisième mandat. Que vous inspire ce climat politique? Vos réflexions, vos témoignages évidemment nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Marion, bonne journée.
Merci Juan, à demain.
Et à demain, bien évidemment. Reste avec nous dans tout juste une minute, le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
le cœur, mieux comprendre son fonctionnement.
Demain,
maladies émergentes et infections, quel défi pour la recherche internationale.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.